Mondial Sport,
RFI,
Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mondial Sport, tous les exploits aux quatre coins du globe sur RFI et bien sûr sur tous les dénivelés. Mondial Sport qui se remet en selle pour un long périple, c'est le départ du Tour de France. L'un des plus grands événements sportifs au monde, la plus grande course cycliste de l'histoire. Une cuvée 2024 unique en son genre. Paris a fermé à clé ses champs. L'arrivée se fera sur la Côte d'Azur dans quelques semaines. Quant aux premières étapes, elles n'ont même pas lieu en France. On les croirait tout droit sorties du Giro. Direction l'Italie pour les premiers coups de pédale. Pays voisin, pays miroir en matière de petite reine et de RN d'extrême droite au pouvoir. Ce n'est pas encore fait en France, mais à la veille du premier tour des législatives, la grande boucle n'est pas dans sa bulle. On va laisser de côté la politique pour le moment. Il en sera question en fin d'émission. Pour l'instant, le départ du Tour de France en Italie à Florence est arrivé il y a quelques instants à Rimini, sur la côte Rimini, où il y a 20 ans, un certain Marco Pantani, légende du Tour d'Italie comme du Tour de France, du cyclisme en général, légende tragique malheureusement, avait rendu l'âme Rimini, où se trouve notre envoyé spécial sur la Grande Boucle, notre monsieur Petite Reine, notre petit roi, en fait, de la Petite Reine, Thomas de Saint-Léger. Bonjour Thomas.
Bonjour Hugo, quelle entrée en matière, merci.
Le peloton donc s'était lancé un peu plus tôt à Florence, en Toscane, une ville qu'on n'a pas vraiment besoin de présenter, la ville de nombreux chefs-d'œuvre. Mais que dire de la ville de l'arrivée finale du Tour cette année, puisque le vainqueur, le maillot jaune, sera non pas sur les Champs-Élysées à Paris comme d'habitude, j'y oblige, mais plutôt à Nice le 21 juillet prochain. Nice, la ville du prochain maillot jaune et la ville de notre maillot jaune à nous, notre consultant tout terrain, Patrick Juillard. Bonjour Patrick.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
Allez, vous êtes fan de cyclisme Patrick, on
oui,
le découvre.
Absolument.
On en découvre encore sur vous, sur RFI après toutes ces années.
Et oui, je n'ai pas qu'un
notamment
seul.
À Radio Foot.
Je ne suis pas monosport et j'aime d'autres sports que le football, dont en premier lieu le cyclisme.
Allez, le suspense est à son comble, on entre dans le vif du sujet. Qui a remporté la première étape du Tour de France en Italie, eh bien, c'est un Français. Ça a bardé, si je puis dire, sur les routes du Tour, sur les routes italiennes du Tour de France tout à l'heure, mon cher Thomas de Saint-Léger.
Il a osé, Hugo. Il a osé.
Je l'avais déjà fait sur WhatsApp auparavant interdit. À Patrick Juillard.
J'ai servi de cobaye.
La victoire, donc effectivement, les auditeurs qui le connaissent l'auront compris, de Romain Bardet. Le grimpeur français de 33 ans, c'est son 11e et dernier Tour de France et il enfile à l'instant même, à quelques mètres de moi, le maillot jaune pour la première fois de sa carrière. Il en rêvait depuis 15 ans. C'est un des très bons coureurs français du Tour de France. Il a déjà terminé sur le podium final. Il avait remporté 3 étapes avant celle d'aujourd'hui, mais jamais jusque-là il n'avait porté cette précieuse tunique qu'il a obtenue au prix d'un effort assez dingue. Vous parliez de chef-d'œuvre de Florence, bah, il y avait un petit peu de tout ça dans la victoire de Romain Bardet aujourd'hui. Pour la décrire rapidement, Bardet a rejoint en contre le groupe qui s'était échappé depuis le début de cette étape très vallonnée hein, jusqu'à Rimini. Il a retrouvé l'un de ses coéquipiers, le Belge Frank Van Den Broek. Et puis, tous les deux, ils se sont isolés en tête de la dernière ascension. Il restait alors 25 km à tenir jusqu'à Rimini, plutôt en descente. En faux plat, c'est très difficile évidemment de résister sur ce terrain, un peloton qui est lancé, un peloton bien amaigri, certes, mais avec au moins 3 équipes qui se relayaient, les Visma pour Van Aert par exemple, les Lidl Trek pour Pedersen, et puis ce duo Van Den Broek Bardet a perdu progressivement du terrain, 2 minutes, 1 minute 30, 1 minute 10 secondes seulement sous la flamme rouge du dernier kilomètre. On se demandait si la petite souris allait être mangée par le chat. Eh bien non. À quelques secondes près, Bardet a franchi la ligne en vainqueur juste devant son coéquipier. Très beau scénario, très beau vainqueur pour cette première étape du Tour de France.
Romain Bardet, Patrick Juillard, est-ce que c'est un coureur qui vous plaît. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est un coureur qui en a dans la tête, une tête bien faite, pas mal pleine aussi, me semble-t-il. Oui. J'ai déjà entendu sur des émissions à haute valeur intellectuelle, si je puis dire, chez nos confrères de France Culture. Un vétéran du peloton.
33 ans, l'âge du Christ.
Un personnage qui vous plaît ?
Oui, qui me plaît, c'est... Alors, je trouvais parfois que c'était un coureur un petit peu trop méthodique et rationnel dans son approche et qui parfois manquait un peu de folie. Moi, il me rappelle un peu, alors ça vient d'une autre discipline, mais il me rappelle un peu Alain Prost. C'est quelqu'un qui prépare ses courses de manière très méthodique, qui laisse pas grand-chose au hasard, qui est très rationnel dans ce qu'il fait, qui fait pas d'efforts inutiles. Et là, ce que je trouve très beau dans ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est qu'il est parti un peu comme un coureur de classique, parce que le profil de cette étape avec ses côtes de deuxième, troisième catégorie qui s'enchaînaient me rappelait un peu celui de certaines classiques ardennaises comme Liège-Bastogne-Liège.
Donc des courses, on précise,
des courses vallonnées comme l'a dit Thomas. Et oui. Il est parti en contre-attaque en s'appuyant sur son jeune équipier, le jeune néerlandais qui a 10 ans de moins que lui, donc qui est un peu son petit frère dans son équipe. Et ils ont fait un duo fantastique. Et je trouve qu'il a été vraiment là dans une attaque vraiment sur un terrain qui n'est pas forcément le sien, parce que ses trois précédentes victoires d'étape dans le Tour, c'était plutôt dans de la haute montagne, puisque c'est un grimpeur. Et là, il l'a gagné sur un terrain plutôt qui aurait plus correspondu à des coureurs comme Mohoric, qui était dans l'échappée le matin, le Slovène. Des coureurs plus de classique, plus tout-terrain. Lui, c'est plus un grimpeur pur. Et là, il a fait quelque chose, je trouve, dans le dépassement de fonction, comme on parle, dont on parle parfois au football. Donc, bravo à Romain Bardet, un très beau maillot jaune et très beau premier vainqueur d'étape dans ce Tour de France.
Thomas de Saint-Léger, vous êtes d'accord ? Le départ de Florence l'a inspiré. Renaissance tardive pour Romain Bardet. Réinvention en tout cas pour peut-être l'une de ses dernières apparitions sur le Tour.
C'est très intéressant ce que vient de dire Patrick, puisque c'est exactement le discours que nous avait tenu jeudi Romain Bardet au moment de la présentation des équipes. Il disait regretter avoir trop souvent tout au long de sa carrière calculé pour terminer sur un podium, un top 5 du Tour de France, c'est-à-dire ne pas faire d'efforts inutiles, ne pas être souvent voilà, dans le calcul, ne pas laisser le panache, l'intuition parler. Et il disait, voilà, pour mon dernier jour, mon dernier tour, le lapsus, j'ai envie de me faire plaisir et de faire parler ma vraie nature. Et de quelle manière l'a-t-il fait aujourd'hui, Romain Bardet, qui devrait arriver d'ici 5 minutes à peu près devant nos micros. Je vous ferai signe, évidemment, et puis on essaiera d'avoir ses
Alors
premiers
justement,
mots en direct, évidemment.
Justement, Thomas, on va profiter de ces minutes de latence pour écouter un petit peu de musique. Romain Bardet, donc vainqueur de la première étape du Tour de France 2024 à Rimini, une ville sur laquelle veille un Saint-Esprit, si je puis dire. Qui n'avait pas une vie si saine que cela. Saint-Esprit du cyclisme,
Un pirate,
voilà, plutôt un grand hors-la-loi du cyclisme, pour le pire comme pour le meilleur, là aussi, Marco Pantani, disparu à Rimini, donc la station balnéaire italienne, il y a 20 ans. Marco Pantani, vainqueur du Tour d'Italie et du Tour de France, la même année, en 98, bon, qui est tombé aussi dans la
spirale. C'était le dernier jour de la Cannes en Tunisie.
Qui est aussi tombé dans la spirale funeste et tragique du dopage. On le surnommait le pirate, on le surnommait aussi Elefantino, le petit éléphant Marco Pantani. Et quand on parle de lui, quand on évoque sa mémoire, il y a généralement un éléphant musical dans la pièce.
Vraiment, qu'est-ce qui t'a pris?
Les vents passent, Rimini, chanson hommage à Pantani. Nous rendrons également hommage demain dans Mondial Sport à Marco Pantani, le pirate décédé il y a 20 ans. Rimini, c'est là qu'il a trouvé la mort. C'est aussi là que Romain Bardet a trouvé son premier maillot jaune au crépuscule, on va dire, de sa carrière.
Ans, ouais.
33 ans pour le Français, mais une belle victoire à l'occasion de la première étape du Tour de France 2024. Thomas de Saint-Léger à Rimini, est-ce qu'il y a une fumée blanche? C'est de circonstance, hein, du côté de l'Italie. Romain Bardet va-t-il bientôt se présenter devant votre micro?
Non, Romain Bardet pour l'instant enchaîne les podiums puisqu'il y a eu le maillot jaune, le podium pour la victoire d'étape. Il se fait prier, on va dire ça comme ça, mais non, il profite évidemment, il a raison. Romain Bardet, au moment même où passent des groupes très attardés, on l'a dit, cette étape était déjà très difficile sur le papier. La chaleur extrême, étouffante ici, l'a rendue encore plus dure et on vient de voir passer seulement maintenant David Gaudu, par exemple, le Français qui était l'un des outsiders pour le classement général et qui a bien évidemment perdu toute chance déjà dès cette première étape. La chaleur et donc les montées, les ascensions de cette première étape qui ont fait déjà beaucoup de victimes. On attend surtout Mark Cavendish, le Britannique. Je vous en parle spécialement, Hugo, parce que Mark Cavendish, vous le savez, il chasse une 35e victoire d'étape sur le Tour de France. Il co-détient le record avec Eddy Merckx, 34 victoires. Et Mark Cavendish, qui devait prendre sa retraite initialement l'an dernier, avait choisi de prolonger pour espérer battre ce record cette année. Il a bien mal commencé son Tour de France et surtout on se demande s'il pourra rentrer dans les délais, hein, puisque vous le savez peut-être ou pas, certains coureurs sont éliminés s'ils finissent trop loin de celui qui remporte l'étape. Pas de Romain Bardet donc pour l'instant, mais encore des coureurs qui doivent arriver sur la ligne d'arrivée.
Alors on attend vos saintes paroles et votre fumée blanche, Thomas de Saint-Léger à Rimini en Italie, où on suit non pas le Giro sur RFI, mais le Tour de France. Voilà, il ne faut pas confondre, même si pas mal de confusion cette année, en tout cas pas mal d'entorses aux habitudes, aux coutumes, aux traditions. Patrick Juillard, vous êtes niçois, et l'arrivée du Tour de France sera niçoise. Il me semble que c'est une première dans l'histoire, en tout cas qu'elle ne soit pas parisienne. Vous fait quoi?
Il y a eu plusieurs fois des départs, mais effectivement des arrivées, c'est à ma connaissance effectivement une première. C'est en raison des Jeux Olympiques, rappelons-le, puisque l'arrivée
à Paris est bouclée, on va dire.
Serait assez compromise avec l'occupation déjà de beaucoup d'équipements par les JO, donc on a délocalisé à Nice.
Le Tour de France se termine le 21, les JO, la cérémonie d'ouverture c'est le 26, donc on comprend bien que les délais, on ne peut pas accueillir deux événements en si peu de délais, quoi.
C'est ça. Moi, ça me fait extrêmement plaisir, puisque je serai à ce moment-là en vacances dans ma ville natale, donc je pourrai le voir en spectateur.
On attend, on se prépare à Nice, vous avez des échos
Oui, ça commence. Il y a une exposition, par exemple, non loin de la place Masséna, la place centrale de la ville. Il y a un peu partout déjà des panneaux et des le compte à rebours, en fait, pour l'arrivée. Et il y aura deux étapes très, très difficiles. Une étape de montagne autour de dans l'arrière-pays et un contre-la-montre très accidenté le dernier jour qui sera sans doute, enfin peut-être si un coureur n'a pas fait le trou avant cela, le juge de paix de ce Tour de France. Enfin, c'est ce qu'espèrent secrètement les organisateurs, qu'on ait un scénario à la 89 Fignon-Lémon où ça se joue le dernier jour dans un suspense porté à son comble.
Alors c'est vrai que Nice, on n'est pas loin des Alpes, tout simplement.
Voilà, la route s'élève très vite.
Qui représente une forme d'incontournable dans l'itinéraire du Tour de France, ce massif. Thomas de Saint-Léger, si on devait faire saliver nos auditeurs. Alors évidemment, vous faites ça très bien, vous leur vendez très bien, si je puis dire, le Tour de France chaque année, mais si on devait leur dire de cocher dans leur agenda des étapes absolument à suivre sur cette édition 2024. Alors la première a été intéressante à suivre, c'est pas toujours le cas. Quelles autres manches il faut absolument ne pas rater cette année?
Alors dès demain, je vous conseille d'allumer votre téléviseur ou d'écouter votre radio, parce que demain c'est pas exactement le même profil, mais Patrick parlait tout à l'heure de classique, ça ressemble encore une fois à une classique, c'est-à-dire une course vallonnée des Ardennes belges, par exemple, c'est-à-dire qu'on va emprunter à plusieurs reprises, enfin les pelotons, pas nous, hein, les coureurs, pas nous, la côte de San Luca, qui est une ascension courte, mais extrêmement pentue, difficile. On pourrait assister demain déjà à une première explication entre les grands favoris. Aujourd'hui, ils sont restés sages. Hein. Pogacar, Vingegaard ne se sont pas vraiment attaqués. Ils ont fait rouler leurs coéquipiers pour tester l'adversaire, on va dire, mais sans vraiment appuyer sur le champignon. On a pu voir que Vingegaard, vous savez, il y a des craintes, hein, sur sa condition. Il revient d'une très lourde chute. Il n'a pas couru depuis 3 mois. On a pu voir que Vingegaard, dans les premières positions du peloton, semblait plutôt à l'aise. Donc demain, on l'attend, lui, on attend Pogacar, Roglic, Evenepoel, les grands favoris de ce tour, pour une première explication. Dès la quatrième étape, nous serons donc mardi, si mes calculs sont bons. Il y a déjà un passage en très haute montagne, le col du Galibier, 2640 mètres, ou quelque chose comme ça, en tout cas. Enfin, très,
ça donne le vertige, quoi qu'il arrive.
Française, voilà, étape de montagne avec déjà des écarts, sans doute, là aussi. On va laisser passer les suivantes parce que ce seront des étapes plutôt plates avec des sprints à l'arrivée ou un contre-la-montre quand même à signaler. Moi, je vous donne rendez-vous pour la 9e au Tour de Troyes. Ce sera le jour du 2e tour en France des élections législatives. Une étape qui a la particularité d'emprunter des chemins de vigne, des chemins blancs. Ça n'est pas Paris-Roubaix, mais
c'est pas les Strade Bianche, c'est les chemins blancs là.
Voilà, alors en Italie, ils ont les Strade Bianche, ce qui veut dire exactement la même chose finalement.
Donc là, on sera plutôt dans le nord-est de la France, si je vous suis.
Voilà, dans la Champagne exactement,
oui.
Nord-est effectivement, et ces chemins blancs peuvent créer du chaos dans le peloton, des crevaisons, des coureurs moins habitués à ces conditions, à ces routes difficiles pourraient perdre du terrain. Une étape intéressante dans le Massif Central aussi, chez Romain Bardet d'ailleurs, il l'a coché forcément, d'autant qu'il l'est extrêmement libéré, on s'en doute, après sa victoire du jour. Et puis les Pyrénées, ça c'est classique, hein, les 13 et 14 juillet, le Tourmalet en particulier, le plateau de Baye, des cols que les amateurs de cyclisme connaissent. La fin de tour, évidemment, sera encore plus intéressante avec, dans les Alpes du Sud, les étapes rennes et puis le contre-la-montre, le fameux contre-la-montre dont vous avez parlé entre Monaco et Nice. Et Patrick pourra confirmer que ces routes du bord de mer entre la Principauté et la promenade des Anglais sont loin d'être une partie de plaisir.
Non,
et
ce sont des corniches.
Voir le tour tour pourrait se jouer, pourrait être renversé ce jour-là.
Absolument, on va faire la corniche dans le sens inverse de ce qui se passe souvent pour l'arrivée de Paris-Nice. Et donc ça va être quelque chose d'assez riche en suspense à mon avis.
Et on a compris donc que le Tour de France passait par un peu chez tout le monde, chez Romain Bardet, chez Patrick Juillard et chez moi en Champagne. On suivra ça donc avec intérêt. Thomas de Saint-Léger, vous nous faites signe dès que Romain Bardet se présente devant vous. Et...
Alors, je vais vous donner un petit indice. Hugo, là je me penche.
Allez-y, on s'adapte.
De la télévision qui ont la primeur des réactions et je ne vois pas encore Romain Bardet avec eux, ça veut dire qu'il ne sera pas tout de suite chez nous.
Donc on a un petit peu de temps.
A priori, à moins qu'il... Voilà, alors je vous avoue qu'il y a beaucoup de journalistes, évidemment, on est peut-être un petit peu cachés, j'essaye de me pencher discrètement, je ne le vois pas pour l'instant. Donc a priori, on ne l'attend pas dans les 5 prochaines minutes, mais évidemment, moi je vous interromps, je vous fais signe.
Vous nous faites signe.
Si je le vois pointer le bout de son museau.
En attendant, on vous laisse dans l'étau de votre groupe étau de journalistes français du côté de Rimini. On va laisser le peloton du Tour de France se remettre de cette première étape sous la chaleur italienne et on va basculer vers l'autre événement sportif du moment, à savoir l'Euro de football.
Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Bonjour Sophia Damasio.
Bonjour Hugo Moissonnier.
Vous suivez le premier match de la journée qui est aussi le premier 8e de finale de l'Euro de football en Allemagne et ça tombe bien, on parle encore de l'Italie. L'Italie qui affronte la Suisse, c'est l'une des plus belles affiches de ce niveau de la compétition et on en est où après une demi-heure de jeu tout pile?
0-0, ça fait plaisir ça aux fans de football d'avoir aucun but marqué. C'est vrai que
c'est un peu la malédiction mondial sport, ouais, j'ai envie de dire. Je vous demande où on en est, généralement vous me répondez 0-0 quelle que soit la compétition, quelle que soit la
rencontre.
Il y a
vraiment des occasions, on va dire. On va essayer de se rattacher à cela. Je repense à une occasion de Brel Embolo, le Suisse, qui s'est présenté face à Gianluigi Donnarumma. 23e minute de jeu, pour être précis, un face-à-face remporté par le gardien du Paris Saint-Germain, qui fait, lui, un euro plutôt spectaculaire, à l'inverse de son équipe, qui est plutôt insatisfaisante, on va dire ça, pour être poli, depuis deux semaines. Donc, pour l'instant, ce sont les Suisses, hein, qui donnent la meilleure impression en Allemagne. Il faut se souvenir qu'en 2021, les Suisses avaient joué aussi un gros, c'était l'équipe de France. Les Suisses étaient passés en quart de finale. On ne souhaite pas une malédiction aux Italiens, mais attention aux Suisses. À l'Euro, ils sont toujours très, très dangereux.
Mais on souhaite aux spectateurs neutres comme des Suisses, pour le coup, d'avoir 6 buts cette fois, comme il y en avait eu à Bucarest, me semble-t-il, il y a 3 ans. Lors de l'élimination de l'équipe de France, Patrick Juillard, pour l'instant, la demi-heure que vous avez suivie d'un œil, tout en nous parlant de cyclisme, elle vous plaît,
un
œil
m'a suffi.
Elle vous conforte dans l'idée que la Suisse a un rôle à jouer dans cet Euro et que l'Italie, pas tout à fait ça.
La Suisse est une équipe mieux organisée. La Suisse est une équipe qui tire davantage que l'Italie le maximum de son potentiel et des joueurs qui ont été sélectionné. Maintenant, l'expérience des grands événements plaide plutôt en faveur de l'Italie. Rappelons le dernier Euro, tout simplement. Sofiane parlait à juste titre d'équipe insatisfaisante. Ça va être la journée, puisqu'ensuite, il y a l'Angleterre. Donc là, on est entre équipe insatisfaisante et équipe, pas surprise, mais équipe, disons, qui elles font un bon euro, et Suisse et Slovaquie. Donc ça va être intéressant, je pense, cette journée. Peut-être les deux premières surprises des huitièmes de finale, qui sait.
Suisse-Italie, c'est à Berlin, 0-0 pour l'instant. Et tout à l'heure, eh bien, RFI sera à Dortmund, dans l'antre du Borussia, finaliste de la Ligue des Champions, dans le jardin de l'Ivoirien champion d'Afrique, Sébastien Haller. Et ce sera sous les yeux de notre envoyé spécial, Antoine Grenier. Bonjour Antoine.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Dans le Signal Iduna Park, alors vous n'êtes pas dans le mur jaune, mais vous l'avez vide sous vos yeux. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit le mur jaune sans spectateur pour l'occuper, pour en composer les briques. L'Allemagne, il n'y aura pas de jaune cette fois, ce sera plutôt du blanc pour soutenir l'Allemagne, ou du vert, l'Allemagne, le pays hôte, qui va affronter le Danemark. Ce n'est pas simple, hein. Comme affiche, coup d'envoi 19h, temps universel, moins 3 minutes, si je puis dire, sur RFI. Avec vous au commentaire, Antoine. Allemagne pluvieuse, Allemagne heureuse, parce que la météo n'est pas clémente. Ce n'est pas du tout le climat suffocant de l'Italie, là, pour vous.
Non, pour l'instant, on n'a pas encore trop d'aperçu de ce qu'on nous annonce pour la soirée. Pour l'instant, le soleil est là, caché derrière quelques nuages, mais rien de bien inquiétant. 24 degrés, peut-être un petit peu chaud pour un match de foot, mais effectivement, vous le disiez, Hugo, on annonce une météo un peu incertaine, des orages, de la grêle, des grosses rafales de vent également sur la région de Dortmund. Est-ce que ça sera pendant le match? Est-ce que ça sera juste après? Il y a les pessimistes, il y a les optimistes. Et si on en parle de la météo, c'est parce que ça serait pas la première fois depuis le début de l'Euro que ici même, à Dortmund, on a le droit à des cascades de pluie qui tombent du toit. Ça avait déjà été le cas lors de la rencontre entre la Turquie et la Géorgie. Ça avait donné lieu à des images assez impressionnante, avec des volontaires qui étaient allés sortir des grandes raclettes pour pousser l'eau dans les bouches d'évacuation. Bref, on croise les doigts. Pour l'instant, le soleil est là, il va bien finir par se coucher, mais tant qu'il se couche et que
et
la pluie,
pas,
elle n'arrive pas, tout
c'est
va bien
ça.
Se passer.
Bon, et le sportif, alors, danger ou pas pour l'Allemagne? Avis de gros temps sur la Mannschaft, le Danemark, le tirage aurait pu être un peu plus clément pour le pays hôte. Ou alors ce serait une bonne manière de se tester. On peut voir ça de plusieurs manières. Qu'en pensez-vous?
Ben disons que les Allemands doivent se tester impérativement. Ils restent sur quand même 3 compétitions qui ont été ratées dans les grandes largeurs, que ce soit la Coupe du Monde 2018 en Russie, où ils sont sortis au premier tour, que ce soit l'Euro 2021, où ils sont sortis d'une poule
en 8e
où figurait
finale,
également l'équipe de France, mais ils se sont fait sortir par l'Angleterre en 8e de finale avec 2 buts en moins d'un quart d'heure. Et puis sur cette Coupe du Monde au Qatar, départ où dont ils espéraient un petit peu plus, et au final ils ont été pareil sortis d'un premier tour qui était pourtant normalement sur le papier plutôt abordable, puisqu'ils étaient face au Japon, l'Espagne et au Costa Rica, mais ils avaient réussi à s'incliner contre le Japon. Donc c'est très très difficile de situer cette équipe d'Allemagne à l'heure actuelle.
Merci Antoine, et à tout à l'heure à Dortmund, sous un temps clément, on le souhaite pour vous comme pour nous, histoire de pouvoir vivre avec vous cette Allemagne-Danemark 8e de finale de l'Euro à partir de 18h57, c'est très précis, temps universel sur RFI, le choc en direct en intégralité. Allemagne ou Danemark, Patrick Juillard ?
Allemagne.
Oui, ça paraît limpide.
Oui, et puis je pense que on s'est un peu trop arrêté au dernier match de poule de l'Allemagne contre la Suisse, mais la Suisse est une excellente équipe. Donc,
oui, parce qu'il y a eu un partout entre la Suisse et l'Allemagne lors de la troisième journée des poules.
L'Allemagne est invaincue, l'Allemagne a produit du jeu, l'Allemagne a des joueurs qui répondent présents au niveau où on les attend, offensivement parlant. Donc, moi, je suis confiant pour l'Allemagne. Le Danemark, en plus, ne m'a pas autant impressionné qu'il l'avait fait il y a 3 ans.
Demi-finaliste.
Avec un euro qui vraiment épatant, malgré ce qui leur était arrivé.
Et bon, qui avait largement inquiété l'Angleterre en demi-finale, l'Angleterre à Wembley. Allez, on revient au cyclisme. On se remet en selle, Patrick.
Allons-y.
Avec Thomas de Saint-Léger et, je crois, le vainqueur du jour.
Ah, pas loin, Hugo, pas loin. Il est juste à côté de nous, Romain Bardet. Il est actuellement interrogé par nos confrères de la télévision belge. Il est passé évidemment devant de nombreuses caméras. C'est un polyglotte aussi, Romain Bardet. Il parle très bien anglais. Je crois qu'il maîtrise assez bien également l'italien. Donc c'est du pain béni, évidemment, pour nos confrères de tous les médias. Et il devrait arriver jusqu'à nous d'ici 2 grosses minutes maximum. Il est à 5 mètres de moi, le visage assez détendu, remis, redescendu peut-être de son petit nuage. Romain Bardet, qui, on va le rappeler, a 33 ans pour son dernier Tour de France, remporte une 4e victoire d'étape et puis surtout endosse pour la première fois le maillot jaune qu'il a chassé tout au long de sa carrière, qu'il le faisait rêver quand il était un petit gamin sur un tricycle qui rêvait de cyclisme. Romain Bardet, voilà.
Vous nous faites vivre, revivre l'enfance de Romain Bardet du côté de Clermont-Ferrand. Allez-y, on l'écoute.
Voilà, Romain Bardet qui arrive juste devant nous.
On écoute Romain Bardet, vainqueur de la première étape du Tour de France.
Vous en rêviez de cette journée depuis très longtemps, j'imagine.
Oui, mais je suis à un âge où on arrête un peu de rêver aussi, donc voilà, il faut être réaliste, mais je savais que voilà, je voulais vraiment aborder ce Tour de France comme si c'était une course finalement comme une autre, où je ne joue pas ma saison, contrairement à ce que j'ai fait sur les dernières années dessus, et c'est le cas. J'ai eu carte blanche, j'étais un des 3 premiers coureurs désignés pour aller dans l'échappée ce matin dans l'équipe, et voilà, donc c'est heureux.
Qu'est-ce que vous ressentez là ce soir ?
Ouais, c'est allé tellement vite, là j'ai un peu de mal à réaliser encore. Parce qu'honnêtement, j'ai pensé jusqu'au kilomètre, aux 500 mètres même, qu'on allait être pris. Je voyais qu'on perdait du temps, on se tenait à fond, mais je commençais à cramper partout. Je me suis dit, mais on va se faire avaler comme ça arrive 90% du temps sur le Tour de France dans les 200 derniers mètres.
Vous parliez de votre nouvelle approche du Tour cette année. Est-ce qu'on a vu le vrai Romain Bardet finalement aujourd'hui ?
J'espère, vous n'allez pas voir grand-chose de mieux de toute façon.
Qu'est-ce qui est le meilleur, l'étape ou de revêtir là, cette tunique jaune ?
Ouais, c'était mon grand but de gagner une nouvelle étape et voilà, c'est le privilège réservé au vainqueur de la première étape qui fait qu'il y a du pire de coup.
Si Franck n'avait pas été devant, est-ce que vous seriez sorti comme ça ?
C'est une bonne question. Je pense que oui. Je pense que oui, parce que de toute façon, j'avais rien à jouer dans ce peloton. C'est soit je me sentais bien, donc soit j'y allais, soit sinon j'arrivais dans le groupe parmi les 50. Donc oui, j'aurais tenté quelque chose.
Et vous réalisez un rêve là quand même ce soir, vous l'avez
dit. Oui, complètement,
fois.
Complètement, mais oui. Non, c'est sûr, après ça allait tellement vite que j'ai... Voilà, ça... Quand je vais me poser, j'espère réaliser.
Merci Romain.
Romain Bardet en direct, sa première action de premier maillot jaune dans son histoire personnelle sur le Tour de France, vainqueur de la première étape du Tour en Italie à Rimini tout à l'heure, le Tour de France en Italie. Thomas de Saint-Léger, ça vous a fait quoi d'entendre ces mots ? Vous étiez, c'est grâce à vous qu'on l'a entendu, Romain Bardet, vous étiez à quelques centimètres de lui.
Mais j'étais assez étonné finalement pour un coureur qui a toujours rêvé de ça. Il l'a dit d'ailleurs, hein, il a l'air de ne pas vraiment réalisé, peut-être aussi sous le coup encore de son effort, Romain Bardet, qui n'avait pas non plus le grand sourire de celui qui a accompli le plus grand exploit de sa carrière. Donc c'est une impression un peu étrange, finalement, l'impression aussi qu'il se dévalue un petit peu. Vous avez entendu ce qu'il a dit, si je n'étais pas parti en contre pour aller chercher ses échappées, j'aurais sans doute fini dans le peloton des 50 derniers. On a vu qu'il avait la jambe aujourd'hui, parce que franchement, il fallait faire cet effort pour rejoindre l'échappée. Il fallait ensuite faire un nouvel effort pour tenir face à ce peloton qui, vous l'avez entendu, revenait à vitesse grand V avec cette avance qui fondait sous la chaleur de l'Adriatique. Et Romain Bardet, voilà, on a l'impression qu'il se dévalue souvent. J'ai l'impression qu'on allait être pris. Vous avez entendu ce qu'il a dit. On ne l'a pas interrogé sur sa volonté ou non de défendre ce maillot. Enfin, forcément, elle existe, cette volonté. Mais demain, je vous l'ai dit, l'étape est compliquée, elle est difficile.
Et les favoris devraient se montrer un peu plus demain. Je voudrais juste faire réagir Thomas, Patrick Juillard, oui, qui voulait réagir à ce que vous disiez à l'instant.
Moi, je pense aussi que le fait que Romain Bardet ne court plus pour une équipe française, donc il court pour l'équipe DSN, qui est une équipe néerlandaise, il est un petit peu isolé en tant que Français dans cette équipe. Je pense que ça doit rendre les choses un peu plus dépassionnées sur le tour, alors que pour les équipes françaises, c'est toujours l'objectif numéro un. On est soutenu par son public, on est entre coéquipiers souvent majoritairement français. Donc je pense que ça joue sur la réaction, peut-être le fait que ça soit aussi en Italie. Donc il y a peut-être cet aspect un peu irréel qui ajoute au côté, quand il dit « je n'ai pas encore réalisé », je pense qu'il est sincère.
Thomas de Saint-Léger, une minute encore pour nous parler de Romain Bardet, parce que je vous ai interrompu en pleine phrase. Et puis après, on va vous laisser respirer un tout petit peu, avant de vous retrouver dans la dernière partie de Mondial Sport, pour parler cyclisme, Tour de France en Italie et politique. Ça paraît compliqué comme ça, mais vous allez voir, ça va être très rapide et très simple. Allez, une minute sur Romain Bardet, la dernière minute sur Romain Bardet, Thomas.
Oh, je crois qu'on a à peu près fait le tour, c'est le cas de le dire, avec ce que vient de dire Patrick. L'argument, effectivement, est assez juste. Il ne court plus pour une équipe française, il n'a plus cette pression de briller. Il a quand même gagné déjà des très belles étapes sur le Tour de France. Et je pense qu'il va quand même avoir un nouveau frisson demain, quand il sera sur le vélo avec ce maillot jaune. Parce que là, il va sans doute vraiment le réaliser. Ça n'est pas la même chose de l'avoir sur le podium et de le porter dans le peloton. Vous êtes le coureur le plus visible, le numéro 1. Tout simplement, ça ne lui était jamais arrivé. Et là, je pense que ça va lui faire quelque chose.
Thomas de Saint-Léger, on vous retrouve en direct de Rimini pour débriefer la première étape du Tour de France sur RFI dans Mondial Sport dans quelques minutes. Peloton, élection, procuration plutôt que piège à con. Mais en attendant, Sofiane Amazian est de retour dans Mondial Sport.
Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Rebonjour Sofiane.
Rebonjour Hugo.
Et si on reparlait un tout petit peu football, parce que ça a évolué sur la pelouse de Berlin, Suisse-Italie.
Ben 1-0 pour la Suisse, on le disait avec Pat, la Suisse qui domine quand même assez largement ce huitième de finale face à une Italie toujours aussi insatisfaisante qu'en phase de poule. Ouverture du score par Freuler il y a une dizaine de minutes, 1-0 pour la Suisse, qui se dirige donc vers ce fameux quart de finale comme en 2021 et cette élimination de la France en huitième.
Allez, on change de sujet. Chaque samedi dans Mondial Sport, vous le savez, nous retrouvons notre Madeleine de prouesse olympique pour nous replonger dans nos plus beaux souvenirs des Jeux. Aujourd'hui, hommage à la détermination d'un homme. Ces images, elles ont vraiment fait le tour de la planète. Elles remontent à il y a 24 ans. J'étais tout gamin, je m'en souviens bien. Le nageur équato-guinéen Eric Moussambani, assigné en 2000, qui entre dans l'histoire. Alors, pas en remportant une médaille, mais en réalisant le plus mauvais temps de l'histoire olympique sur 100 mètres dans un bassin. Racontez-nous tout ça, Sofiane.
Et ça, c'est ça qui est exceptionnel. 1 minute 52 et 72 centièmes pour réaliser un aller-retour à par mois. Je pense que c'est difficile de faire plus lent pour boucler 100 mètres quand les professionnels réalisent des chronos plus de deux fois inférieurs. Et là, on était en 2000. Eric Moussambani, 22 ans, avait tout pour devenir une figure malgré lui. Ce fameux 19 septembre 2000, les deux nageurs qui l'accompagnent en série sont disqualifiés en même temps pour faux départ. L'équato-guinéen doit donc nager seul, maillot de bain bleu, très moulant. Avant de partir, il tente de régler ses lunettes qui ne semblent pas adaptées à sa tête. La course débute, plongeon plutôt correct, puis je vous remets les images en tête.
Un petit peu de mal à mettre ses lunettes, visiblement pas
très habitué.
Ça vous fait marrer, vous.
Sur natation. Et oui, un faux départ, ils sont tous les deux disqualifiés.
Il va nager tout seul. C'est inédit comme image.
Alors, regardez un petit peu. C'est un style, évidemment, assez peu académique.
Vous l'entendez, on va passer les moqueries. Tentative de crawl mal maîtrisé de la part d'Eric Moussambani. Tête en dehors de l'eau. Moussambani lutte pour arriver à l'autre bout de la piscine. Le retour est pénible, très pénible. Mais il arrive finalement à toucher le mur. On va écouter l'analyse de cette course devenue mythique par le principal concerné.
Después de nadar... À la fin de la course, je me suis avant tout senti reconnaissant, parce qu'au moins j'avais pu représenter mon pays, parce que j'avais réussi à faire ces 100 mètres, ce que je n'avais jamais fait auparavant, et aussi des acclamations reçues de toutes les fédérations, tous les pays.
Et depuis cette prouesse aquatique, Hugo Eric Moussambani a eu un surnom, Eric Languille, vu sa manière de nager.
Alors racontez-nous la genèse de cette histoire exceptionnelle. Comment Eric Moussambani, Sofiane, s'est-il retrouvé à nager 100 mètres dans un bassin durant les Jeux de Sydney?
C'est fou, c'est extraordinaire. Tout débute par un simple rendez-vous dans l'hôtel Outreca à Malabo, la capitale. La fédération équato-guinéenne lance un appel pour recruter deux nageurs pour participer à ces fameux Jeux Olympiques de Sydney. Eric Moussambani se présente seul et est donc sélectionné d'office. Problème, ce n'est pas un nageur confirmé. Loin de là, il va donc s'entraîner dans une piscine de 20 mètres et ne découvrira les bassins de 50 qu'en Australie. Il n'a pas le matériel adéquat et arrive près du plongeoir en short de bain d'abord. C'est un entraîneur sud-africain qui lui prête alors un maillot, un bonnet et des lunettes. Le nageur n'était tout simplement pas prêt.
Honnêtement, je ne savais pas nager. J'avais bien quelques notions, mais rien de plus. Et aucune expérience pour une telle compétition. Je n'avais pas d'expérience du tout. Je ne savais pas comment bouger mes bras, mes pieds et coordonner ma respiration dans l'eau.
Le paradoxe, Eric Moussambani, c'est que sa contre-performance historique en a fait une star dans le monde et dans son pays.
Ouais, sa vie a tout simplement radicalement changé depuis cette course clôturée en près de 2 minutes. D'abord, sur le sportif, il s'est mis sérieusement à la natation pour préparer les Jeux d'Athènes 4 ans plus tard, établissant même un record personnel de 57 secondes. Mais une erreur administrative de la fédération, décidément pas de chance, hein, qui perd la photo de son passeport, eh bien, ça l'empêche finalement de participer sans rancune pour le nageur qui devient dès 2012 et les Jeux de Londres entraîneur national des nageurs équato-guinéens, comme quoi il ne faut jamais abandonner ses rêves.
Certes, il y a eu quelques moqueries, mais cela m'a donné plus de satisfaction, car dans les interviews que j'ai eues après, je leur ai fait comprendre que je n'étais pas bien préparé, pas entraîné comme les autres. Mais grâce à cet effort et à l'esprit olympique que je représentais, j'ai pu être connu. Je crois que dans la vie, quand on a des objectifs, il faut persévérer pour les accomplir. Il faut se battre parce que c'est en faisant des sacrifices et des efforts que l'on obtient ce qu'on veut.
Eric Moussambani l'avoue, il n'a jamais été autant sollicité pour des interviews qu'après sa course que tout le monde a jugé ratée, un raté Hugo, bien qu'il change une vie.
Merci Sofiane Amazon et Patrick Juillard, c'est quand même tout le paradoxe des Jeux Olympiques. Pour vraiment imprimer dans la mémoire des gens, il faut peut-être mieux, sauf si vous êtes Usain Bolt ou un champion en homme, peut-être mieux être Eric Moussambani, être très modeste, voire ne pas du tout être compétent à sa discipline. Et là, vous marquez vraiment les gens et vous faites parler de votre pays. Enfin, Vous raccrochez à ce qui fait aussi le sel.
C'est l'universalisme.
Voilà.
Et c'est Moussambani l'a poussé jusqu'à l'extrême. La devise, l'essentiel est de participer. Et effectivement, c'est devenu par la suite un nageur et un DTN. Et il encadre des jeunes. Moi, le seul mystère, c'est pourquoi en Guinée équatoriale, donc qui est un pays baigné par les eaux, n'y a-t-il pas eu de nageur plus compétent que Moussambani pour se présenter au rendez-vous donné par la fédération au départ? Mais en tout cas, tant mieux pour lui. Aujourd'hui, il en a tiré une certaine gloire et un certain bonheur, je pense, de cette
et
histoire.
Et on salue Eric Moussambani, s'il nous écoute, ce qui n'est pas forcément impossible du côté de la Guinée équatoriale.
Mondial Sport, Radio France Internationale. Hugo Moissonnier.
La dernière ligne droite dans Mondial Sport. Pas de sprint ni d'échappée en solitaire. Enfin, sauf celle qui a bien réussi à Romain Bardet, vainqueur de la première étape du Tour de France tout à l'heure. Les coureurs français Bardet, mais aussi les autres du Tour, ont pris de l'avance, mais ils ont également pris leur temps pour faire leur choix. On l'espère en tout cas. Je ne parle plus de sport, je parle de politique. Ils sont actuellement en Italie, ces coureurs français du Tour, mais demain, ce sera le premier tour des élections législatives dans leur pays. Le risque d'une arrivée au pouvoir de l'extrême droite à l'issue du deuxième tour le 7 juillet est élevé et le peloton a donc fait sa procuration à l'image de Guillaume Martin, coureur Cofidis, meilleur grimpeur de la Vuelta il y a quelques années, c'est le Tour d'Espagne, dixième du Tour de France l'année dernière. Guillaume Martin plutôt clair dans ses positions hors des pistes.
Le sport ne doit pas être coupé du monde, c'est pas du pain et des jeux et puis on oublie tout le reste. On est des citoyens aussi, moi tous les matins pendant le Tour je me réveille avec la radio justement. Je me tiens informé parce que de toute façon qu'on le veuille ou non le monde continue de tourner et je profite justement des micros aussi qui me sont tordus pour dire qu'il ne faut pas céder à la peur, à un repli sur une identité, je sais pas, fantasmée, pas s'enfermer sur ses frontières. Voilà, le sport, le vélo, c'est plutôt aller à la rencontre de l'autre. Et là, voilà, on est à Florence, une ville humaniste. Je pense que c'est plutôt ces valeurs-là dont on doit s'inspirer.
Guillaume Martin qui nous parle de manière cultivée de Florence, la ville italienne qui a accueilli le départ du Tour tout à l'heure, comme un symbole, l'Italie, donc qui accueille le départ du Tour de France, en tout cas les premières étapes, est déjà gouvernée par l'extrême droite. Guillaume Martin qui était à votre micro, Thomas de Saint-Léger, vous êtes en direct de Rimini, vous êtes notre envoyé spécial sur le Tour. Le peloton a fait ses procurations, le peloton s'engage à l'image de Guillaume Martin, le peloton est conscient cette année.
Le peloton est conscient cette année, peut-être les années précédentes aussi. D'ailleurs, ça je n'en sais rien, puisque c'est la première fois qu'on pose aux coureurs ce type de questions, même s'il y avait déjà eu il y a quelques années, en 2019, si je me souviens bien, des élections départementales au moment du Tour de France. Mais là, l'enjeu évidemment est très différent. Les questions ont été posées à quasiment tous les 32 coureurs français au départ, et puis la plupart d'entre eux nous disent qu'ils ont déjà pris leur disposition, qu'ils ont fait leur procuration, qu'ils ont conscience effectivement de vivre un moment très important dans l'histoire de leur pays, un tournant peut-être. La plupart nous disent également s'intéresser à la politique. C'est le cas par exemple de celui qui porte depuis quelques jours, depuis un peu plus d'une semaine, le maillot de champion de France. Il s'appelle Paul Lapeyrat, un jeune coureur normand, un maillot de champion de France qui pourrait avoir une signification particulière peut-être au soir du 8 juillet. Lui nous dit que ça ne changerait pas forcément grand-chose pour lui, mais voilà, il nous dit s'intéresser à la politique, à ces élections, comme l'immense majorité des coureurs. Sur l'engagement et les choix, Guillaume Martin, même s'il ne nous a pas directement dit pour qui il allait voter, vous avez compris plutôt dans quelle direction.
En tout cas, il fera barrage à l'extrême droite.
On a compris pour qui il n'allait pas voter.
Voilà.
Voilà.
On a compris
voilà.
Dans quelle direction il n'irait pas courir.
Pour les autres, ils n'ont pas jugé nécessaire de nous dire quel serait leur choix, que c'était personnel et ça se respecte évidemment. On n'a pas les grands discours, c'est plutôt du côté de Guillaume Martin. L'intérêt, c'est pour tout le monde.
Patrick Juillard, est-ce que elles vous font plaisir, ces prises de position de Guillaume Martin, qui s'est exprimé de manière assez éloquente? On reproche souvent aux sportifs, en tout cas en France, d'avoir rien dans le cerveau, pour le dire vite. Là,
oui,
il en a.
Largement
Bardet,
la moyenne,
le vainqueur,
oui,
du jour, est aussi plutôt quelqu'un de cultivé et de réfléchi.
Structuré,
structuré. Est-ce que les sportifs ont raison de s'engager? On a parlé des footballeurs il y a peu, les footballeurs de l'équipe de France qui avait aussi, à part Thuram, du mal à complètement prendre position contre l'extrême droite. Mbappé l'a fait aussi.
Chacun de sa manière, parce que c'est Marcus Thuram qui, le premier, a pris une position tranchée. Et je pense que ça n'a pas beaucoup plu en haut lieu à la fédération. Et ensuite, on a eu plutôt des positions contre les extrêmes, mais sans vraiment dire lesquelles. C'était plus des positions de principe. Thuram, lui, a pris une position clairement politique.
Contre l'extrême droite, en tout cas.
Voilà, en désignant bien l'extrême en question.
Mbappé a plus renvoyé les deux extrêmes dos à dos.
Et Guillaume Martin, lui, il est sur une ligne humaniste et donc contre. On sait très bien que c'est contre le RN, hein, sa prise de position. Donc je trouve que c'est plus moins ambigu et plus clair. Donc je salue cette clarté de Guillaume Martin.
Thomas de Saint-Léger, c'est pas du tout pour tomber dans une généralité qui serait trop facile, mais c'est vrai que le cyclisme a une image d'un sport très européano-centré, Italie, France, Benelux. Alors même si c'est
ça,
beaucoup
c'est
moins vrai maintenant,
historique, ça, mais ça
c'est
a changé.
L'image historique, ouais. On va dire. C'est vrai que le peloton a mis du temps à se métisser. On a parlé il y a pas longtemps. Je vous invite à réécouter notre émission du 11 mai de Binyam Girmay, évidemment la star érythréenne et africaine. Mais les coureurs de couleur, on les voit depuis assez peu de temps finalement dans le peloton. Est-ce que voilà, la sortie, une sortie comme celle de Guillaume Martin peut faire du bien aussi à cette image, peut-être un tout petit peu réactionnaire ou en tout cas conservatrice que peut avoir le cyclisme?
Elle va faire du bien, évidemment, mais on n'attendait pas autre chose de la part de Guillaume Martin. Je pense que si Romain Bardet était rentré dans les détails, on aurait eu à peu près le même type de discours de sa part. C'est vrai qu'il y a eu une époque et qu'il y a une tradition du cyclisme, un milieu un petit peu conservateur, du terroir français. Je pense que ça évolue puisque, vous l'avez dit, hein, le peloton s'internationalise. Il y a des coureurs d'Afrique, mais pas seulement finalement, qui viennent enrichir le peloton.
Amérique du Sud aussi, Amérique latine.
Et les équipes qui sont... Effectivement, ils viennent enrichir les équipes qui sont majoritairement des équipes de sponsors de pays occidentaux, de pays européens. Ça, c'est vrai, mais les coureurs venant d'autres territoires sont de plus en plus acceptés. La preuve, c'est que Binyam Girmay, vous parliez de lui, c'est le leader de son équipe belge depuis presque 2 ans maintenant. Donc ça veut dire quelque chose.
Merci beaucoup Thomas de Saint-Léger, notre envoyé spécial sur le Tour de France. On vous suit tout au long du mois de juillet sur RFI et sur les routes italiennes. Et elles seront françaises très bientôt du Tour de France. Merci beaucoup Patrick Juillard d'avoir partagé l'une de vos passions qui est aussi le cyclisme. Merci à Claude Battista, notre réalisateur du jour. Comme son nom l'indique, il a vu le jour pas très loin de la ville où est arrivé le Tour aujourd'hui. On le salue, ça lui a fait plaisir de revoir quelques...
C'est le régional de l'étape.
Exactement, le régional de l'étape. Lui a fait plaisir de revoir quelques paysages connus à la télé tout à l'heure. Monde Sport revient demain, toujours pour parler du Tour de France. Ce soir, football sur RFI. Allemagne-Danemark, et toujours en parlant de football et d'euro. La Suisse mène 1-0 face à l'Italie à la mi-temps du premier quart de finale de l'Euro. Tout ça...
Huitième de finale, pardon.
On va souffler un petit peu et réécouter et écouter un autre journal international sur RFI avec Nicolas Brousse. Très bonne soirée sur les antennes de la Radio du Monde.